l'excellent sabbat. Le titre du sermon aujourd'hui, développer une foi vivante. Développer une foi vivante. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un processus qu'on doit choisir de faire, qu'on doit entretenir tout au long de notre vie de chrétien pour être capable d'atteindre le but et d'entrer dans la famille de Dieu. Tous les humains, sans exception, au cours de leur vie, traversent toutes sortes de circonstances et vivent toutes sortes d'expériences variées. C'est le cas de tous les êtres humains. Tantôt, certaines de ces expériences-là sont heureuses, tantôt moins heureuses et vraiment éprouvantes. Qu'il s'agisse, par exemple, de la perte d'un emploi, qu'il s'agisse de la perte inévitable d'un être cher. Au cours de notre vie, on perd tous des êtres chers en cours de route. Qu'il s'agisse de la maladie, et la maladie frappe tout le monde, des gens dans l'Église comme des gens à l'extérieur. Que ce soit des mauvais traitements reçus de gens autour de nous, des injustices, parce qu'on ne vit pas dans un monde juste. Automatiquement, il y a des injustices qui sont commises à l'endroit de chacun. Incompréhension de la part de d'autres autour. Ça vient avec le lot de la vie humaine. Pauvreté, rejet, ainsi de suite. C'est vrai ça pour tous les êtres humains. Et c'est vrai aussi pour les gens que Dieu appelle. Quand Dieu appelle quelqu'un, il ne dit pas « je vais vous mettre à part dans un jardin de roses, vous n'aurez jamais aucune épreuve, aucune difficulté ». Non, c'est pas ça. On vit dans le monde où on est, on a les mêmes épreuves que les autres ont, parfois même dans certains cas plus, mais à la différence que, en ce qui nous concerne, ces épreuves-là peuvent servir à un but extraordinaire pour nous permettre d'arriver à la vie éternelle et ensuite d'aider les autres êtres humains qui auront à vivre les mêmes choses ou qui seront venus de milieux ayant vécu les mêmes choses. Quand on sera dans le monde de demain, après le retour de Christ, on pourra aider les autres. Nous sommes appelés maintenant à faire partie du tout petit troupeau de Dieu. Et parce qu'on a été appelé, on a un accès à Dieu directement. Et on peut lui demander son aide dans les circonstances que je viens de vous décrire et les autres possibles. Et Dieu répond toujours par l'affirmative ou par la négative. Il va dire oui ou non, ou il va nous dire oui, mais plus tard dans notre vie. Mais il répond toujours. Quand on est en contact avec Dieu et qu'on cherche à faire sa volonté, on peut être assuré que Dieu répond à toutes les prières. Pas selon ce qu'on désire, ni le temps qu'on désire. Ça, c'est l'autre chose. Mais on peut être assuré que Dieu répond à nos prières. Et si on ne fait pas attention, parfois on peut être déçu parce qu'il semble qu'il n'intervienne pas. On demande quelque chose, il ne se passe rien, ou ça ne se passe pas comme on aurait souhaité. Et humainement parlant, avec nos yeux, on peut être porté à penser que Dieu n'intervient pas. Mais ça, c'est notre perception. Ça ne change pas Dieu, ni sa façon de faire. Il y a des gens qui ont vécu ce genre de situation-là dans l'Église, dans le passé, et j'en ai connu plusieurs, malheureusement, qui, devant une telle circonstance, ayant prié Dieu, n'ayant pas eu la réponse qu'ils souhaitaient, ou pas au moment où ils souhaitaient, ou n'ayant pas eu de réponse du tout pour l'instant, ont commencé à douter de Dieu et ont quitté l'Église, finalement. Ont quitté l'Église, ont tout perdu, ont tout manqué, si vous voulez, à partir de là. Parce qu'ils n'ont pas compris comment ça fonctionne et comment la foi réelle peut nous aider. Pas notre foi humaine, mais la foi de Dieu qu'on peut recevoir, qu'on doit lui demander. Parce qu'il y a d'autres personnes dans l'Église, et j'en ai connu un certain nombre depuis les dizaines d'années que je suis dans l'Église, il y a un certain nombre de personnes qui ont vécu des circonstances très pénibles, de maladies, d'accidents, avec des conséquences qui ont duré pendant des années, mais qui sont restés fidèles. Et même plus que ça, à travers l'épreuve, qui ont développé une foi plus solide encore, et une conviction encore plus grande par rapport à Dieu. Vous avez un exemple de ça dans la Bible, on ne s'y reportera pas, mais c'est exactement le cas de Joseph, qui a été vendu par ses frères en tant qu'adolescent, qui a été esclave ensuite. Quand il a fait le bien, vous savez, il n'a pas voulu faire l'amour avec la femme de son patron, il a été mis en prison pendant une dizaine d'années pour avoir fait le bien. Malgré tout ça, non seulement Il n'a pas douté de Dieu. Il a continué à lui faire confiance et il a attendu la réponse de Dieu. Parce que Dieu avait quelque chose de particulier pour lui dans son plan. C'est un très bon exemple de quelqu'un qui est dans des circonstances pénibles qui durent longtemps, mais dont l'attitude est de durer longtemps dans la confiance faite à Dieu. Et le résultat est vraiment formidable. Allez dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. La première condition pour ça, pour que ça fonctionne, c'est d'être un ami de Dieu, c'est-à-dire d'être vraiment un serviteur de Dieu. Jacques 4, versets 3 et 4. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que je ne peux pas continuer à faire le mal dans ma vie et espérer que Dieu va me répondre. Et espérer que Dieu va me répondre favorablement. Il dit, vous ne pouvez pas être ami du monde, suivre ce que le monde fait. Bien sûr, il faut aimer le monde. Mais on ne peut pas suivre ce qu'ils font et penser que Dieu va nous répondre et se penser proche de Dieu et penser plaire à Dieu. Il dit, c'est un ou l'autre. Il faut que vous soyez amis de Dieu. Et là, Dieu va vous répondre. Et là, on cherche à faire sa volonté. Quand on est ami de Dieu, on cherche à faire sa volonté, à marcher avec lui. Comme le Christ a fait avec son Père. Regardez Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. On va lire versets 41 et 42. C'est le contexte avant que le Christ soit amené pour être crucifié lorsqu'il a prié son Père. Verset 41, Luc 22. Puis il s'éloigna d'eux, de ses disciples, à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, cette douleur terrible qui s'en vient, cette épreuve incroyable, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ça, c'est notre point de base dans toutes les circonstances qu'on a à vivre. Dire à Dieu, « Je comprends pas ce qui m'arrive. C'est extrêmement pénible. » Mais que ta volonté se fasse là-dedans. Montre-moi quelle est ta volonté et aide-moi à la faire, ta volonté, à te rester fidèle. Christ a cherché à faire la volonté de son Père dans son cas, même au prix de sa vie. Il est allé jusqu'au bout. Maintenant, je vais plus loin. Allez dans Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6. C'est quoi la volonté de Dieu? Vous allez voir, on va le voir clairement. C'est encourageant. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi son but? Jean, chapitre 6, versets 39 et 40. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est le Christ qui parle ici, la volonté de mon Père, autrement dit, de Dieu le Père, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il l'attire vers le Christ. C'est pour ça que le Christ dit, je ne veux pas perdre personne de ceux que le Père m'a donné. Mais que je le ressuscite au dernier jour. Bien sûr, sous-entendu, si cette personne-là s'applique à faire la volonté de Dieu. S'il ne fait pas la volonté de Dieu, c'est sûr qu'il va perdre sa route. Mais Christ dit, moi, je peux l'amener à terme si la personne reste fidèle, travaille pour continuer à l'être. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, et croire en Jésus-Christ, c'est marcher dans ses voies. C'est pas juste croire qu'il existe. C'est de faire ce qu'il nous dit de faire. Quiconque voit le Fils est en lui la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La foi divine, ça implique de réaliser de plus en plus, puis ça c'est encourageant, que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Et qu'il fait, en ce qui me concerne et ce qui vous concerne personnellement, ce qu'il y a de mieux dans le cas respectif de chacun. Lui le sait. Et c'est à ce moment-là que je dois choisir de mettre ma confiance entre ses mains, de dire, lui sait ce qu'il me faut, lui sait comment me sortir de ce problème-là, lui sait comment m'aider à en sortir en apprenant ce que je dois apprendre pour ce qu'il a en tête pour moi dans son grand but. Et il va tout amener à la meilleure fin possible, au meilleur résultat, même si au moment où je vis les circonstances, ça me semble négatif, ça me semble contraire, C'est contrariant, ça me fait mal, je suis mal à l'aise, mais lui sait. Aide-moi, Père, à tenir le coup et montre-moi ce que je dois apprendre à travers ça et à passer à travers l'épreuve. Dieu est au courant de tout ce qui se passe dans votre vie en détail. Ce que Dieu fait en ce moment avec chacun de ceux qu'il appelle, c'est qu'il est en train de nous entraîner. Il est en train de nous former jusqu'à ce qu'il soit certain, absolument certain, de pouvoir nous donner la vie éternelle. C'est beaucoup, là, parce que s'il nous donne la vie éternelle, il veut être capable de savoir qu'il pourra éternellement compter sur nous et que nous ne nous détournerons pas de lui comme Satan a fait. Satan est un être spirituel qui va vivre malheureusement éternellement, mais dans la souffrance, écarté du reste de la création à un moment donné, quand il sera éliminé définitivement. Mais Dieu dit, ça ne se produira pas avec les membres de ma famille. Je vais leur permettre des expériences parfois difficiles, parfois agréables, parfois bonnes, mais dans toutes ces circonstances-là, ils devront me prouver qu'ils tiennent à m'appartenir et qu'ils me font confiance. C'est ça. Alors, nous sommes à l'entraînement avant de recevoir la vie éternelle. C'est quelque chose. On a vu un cas semblable dans le cas de l'apôtre Paul. Allez dans 2 Corinthiens chapitre 12, s'il vous plaît. L'apôtre Paul est un exemple fascinant là-dedans. Quand on lit les textes, on s'imagine un peu ici, un peu là, ce qu'a pu être sa vie. 2 Corinthiens chapitre 12. Mais je pense qu'on n'arrive jamais à tout saisir, à saisir comment il a pu se sentir à certains moments donnés. C'était extrêmement pénible. 2 Corinthiens 12, on va lire les versets 7 et 8. Et Paul, qui a été emprisonné, qui a été battu, torturé, laissé pour mort, lapidé, qui a vécu toutes sortes de choses difficiles, tout en ayant aussi de grandes bénédictions en cours de route, à un moment donné, avait un problème de santé, on ne sait pas au juste de quoi il s'agit, ça pouvait avoir rapport avec ses yeux, certains pensent, mais il y avait un problème, il avait demandé à Dieu d'être guéri. Et la réponse de Dieu, dans son cas, ça a été non. Mais regardez sa réaction de quelqu'un qui a une foi vivante, qui s'en remet à Dieu, au jugement de Dieu, que Dieu sait ce qu'il fait et qu'il fait ce qu'il y a de mieux pour vous et pour moi individuellement. Verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, voyez-vous, à cause de l'excellence de ces révélations, parce que Paul était tellement ébloui par la beauté, par la splendeur des vérités que Dieu lui avait révélées, il dit « Pour que je m'enorgueillisse pas des belles choses que j'ai comprises, Dieu a mis dans ma chair une écharpe, un problème physique qu'il ne veut pas enlever pour que je reste humble, que je reste dans le besoin de lui. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Voyez-vous, ça va loin. Verset 8. « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Alors il a demandé, il a supplié Dieu. C'est une demande légitime d'un serviteur remarquable qui faisait le travail comme il faut. Il voulait mieux servir Dieu en étant en parfaite santé ou en meilleure santé. C'était pas un but mauvais, là. Mais Dieu savait que Paul avait besoin d'autre chose. Il a plaidé trois fois pour le supplier. Et regardez le verset 9, comment Dieu lui a répondu. Il m'a dit, « Ma grâce te suffit. Paul, je t'ai pardonné, je t'ai appelé à faire mon œuvre. Dans ton cas, ça suffit. » Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et avez-vous remarqué, quand on est malade, ou quand on est dans une situation de besoin, ou quand on voit nos limites à tous égards, avez-vous remarqué comment on est plus porté à regarder la grandeur de Dieu, et non pas notre puissance à nous, ou nos capacités? Mettons ça dans d'autres termes. Quand nos capacités s'en vont, on commence à voir absolument que pour continuer, on a besoin des capacités qui nous viennent de Dieu. Alors, c'est pour ça que Dieu permet qu'il y ait certaines circonstances qui nous arrivent pour qu'on voit sa grandeur à lui, notre impuissance à nous, et qu'on développe une confiance de plus en plus grande jusqu'à devenir une confiance absolue en lui, même si les circonstances qu'on vit ne nous laissent pas entrevoir une solution heureuse. Lui le sait. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alors, ce que Dieu a fait en lui refusant d'être guéri, c'est de le garder humble et d'être davantage prêt pour le royaume et pour qu'il le serve mieux dans les années qui lui restaient à travailler comme ministre de Dieu. C'est ça qui s'est passé. Et Paul l'a compris, il l'a apprécié. Il dit pas ici, mais je suis certain qu'il a remercié Dieu, même de ça, parce que c'était la bonne chose à lui arriver. Dieu, là, vous savez, faut pas l'oublier, c'est notre papa, c'est notre bon papa. Et c'est un père parfait. Il sait exactement ce que chacun de nous a besoin. Du plus jeune au plus vieux, du plus en santé au plus malade, du plus riche au plus pauvre. Il sait ce que chacun d'entre nous a absolument besoin. Et si on compare ça à une famille humaine, qu'est-ce qui arrive dans une famille humaine? La meilleure façon de ruiner le développement d'un enfant, c'est quoi? La meilleure façon là, de le priver d'un développement de caractère valable puis qu'il devienne un adulte responsable, équilibré, solide, c'est de lui donner tout ce qu'il veut à mesure qu'il le veut. Ça, c'est la meilleure façon de gâcher son avenir. Malheureusement, aujourd'hui, dans la société moderne, c'est de plus en plus à la vogue de faire ça. Et les gens ne comprennent plus, comprennent de moins en moins ce qu'est une vraie éducation. Que pour éduquer des enfants, on ne doit pas tout leur donner. Même les gens, aujourd'hui, vont au-devant de ce que les jeunes demandent, les inondent de biens de toutes sortes, pas pour leur bien, mais pour leur mal. Parce qu'ils n'apprennent pas à apprécier les choses. Ils n'apprennent pas à apprécier les choses. Vous savez, quand les parents nous montraient à mettre nos sous dans un petit cochonnet ou dans une petite boîte avant de s'acheter quelque chose, on voulait s'acheter quelque chose, les parents disaient, bon, tu vas ramasser ton argent et quand tu n'auras assez, tu pourras acheter le petit morceau que tu veux. Qu'est-ce qu'on apprenait? On apprenait à désirer la chose et on apprenait à faire notre part pour se préparer à l'acquérir. Et quand on l'avait, wow, on était content. C'était le bonheur absolu. Mais on avait appris quelque chose. On avait appris à être patient. On avait appris à développer la bonne façon d'administrer. On avait appris à développer le caractère, la maîtrise de soi, la maîtrise de nos convoitises, de nos émotions. Tu ne peux pas l'avoir tout de suite, tu l'auras plus tard, mais prépare-toi en conséquence. Et fais ce qu'il faut. Alors voyez-vous, la meilleure façon de détruire le développement du caractère chez l'enfant, c'est de tout lui donner au fur et à mesure, ou même avant, qu'il ne le désire. À ce moment-là, malheureusement, l'enfant n'apprend pas. Il n'apprend pas non plus le sens des responsabilités. Tout lui vient comme ça automatiquement, même avant qu'il demande. Et il n'apprend pas le contrôle de soi-même, la maîtrise de soi. Et ça fait une société qui est malheureuse, qui n'en a jamais, jamais, jamais assez. Et ça doit être tout de suite. Ça doit être une gratification immédiate. Allez dans Hébreux chapitre 11. Notre fameux chapitre de la foi. Hébreux chapitre 11. Lisez le verset 6. Il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Sans qu'on croie Dieu, c'est impossible de lui être agréable. Et c'est logique. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Si la personne pense s'approcher de Dieu en pensant pas qu'il existe, ça donne quoi? Ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'il dit, sans la foi, c'est impossible de lui être agréable et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et pas seulement ça. Croit qu'il est aussi le rémunérateur, c'est-à-dire celui qui répond. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Quand on cherche Dieu intensément, avec sincérité, comme premier but pour faire sa volonté, là Dieu répond. Et il organise nos circonstances pour nous consoler, nous encourager, nous diriger, organiser les circonstances. Ça, c'est la clé de base. Ça, c'est la clé de base. Croire que Dieu existe et qu'il est celui qui répond. Et c'est pour ça que nous, on doit développer cette confiance-là absolue en Dieu. Par exemple, quelqu'un demande une guérison. C'est formidable. On demande à tour de rôle chacun. Tous les membres d'église ont demandé guérison à un moment donné, je pense. Je pense que j'ai oué à peu près tout le monde ici, plus qu'une fois pour certains problèmes de santé. Certains, ça s'est réglé. D'autres, ça s'est pas réglé. D'autres, ça s'est pas réglé tout de suite. Parfois, c'est tout d'un coup. Je me rappelle, j'ai déjà été malade énormément. C'était dangereux, c'était grave. Et je me rappelle, le ministre était venu me voir. J'habitais à Québec à ce moment-là. Et le ministre était venu me voindre. Et quand il est parti, après l'onction, j'ai pris un café avec lui. Avant ça, je délirais littéralement. J'étais incapable de rien faire. Et dans l'espace de l'onction, j'ai été remis sur pied. Ça a été formidable. Je remercie Dieu. On ne doit pas d'ailleurs se vanter des guérisons qu'on a eues. On n'est pas meilleur parce qu'on a eu une guérison. Et parfois, il y a des pièges là-dedans. De sentir que Dieu nous aime davantage ou qu'on est meilleur parce qu'il nous a répondu à une prière. Il faut faire attention. La guérison, il l'accorde comme une bénédiction. Il faut la garder comme une bénédiction. C'est pas quelque chose non plus à publier autour dans les gens qui ne sont pas de l'Église. C'est des choses auxquelles on doit faire attention. Mais ça m'est arrivé. Et ça arrivait à plusieurs. Certains ont guéri avec le temps, comme je dis, plus tard. Et certains, ça a été non, comme dans le cas de l'apôtre Paul. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ça, c'est un principe intéressant à comprendre. La plus grande guérison pour vous, comme pour moi, elle est future. Elle est à venir. C'est notre résurrection. Quand on sera changé en être spirituel. On ne sera plus du tout mortel. Il n'y aura plus aucune maladie, aucune douleur, aucune souffrance. Ça, c'est notre guérison totale que Dieu va nous accorder au retour de Christ. Alors, on peut demander guérison, mais Dieu choisit quand et comment. Et quand il nous l'accorde, il faut le considérer comme c'est, en être reconnaissant et continuer notre route, tout simplement. Deuxièmement, je donne un autre exemple. C'est normal qu'on veuille avoir un conjoint pour ceux qui désirent se marier. Ou se remarier, dans le cas de quelqu'un qui est veuf, s'il désire se remarier, ou une veuve. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours la même chose. Se tourner vers le gouverneur de l'univers. Lui demander. On peut lui demander avec insistance. Et lui faire confiance que Dieu, encore là, sait ce qu'il y a de mieux. Pour une personne, c'est peut-être mieux que la personne soit mariée. Et à ce moment-là, il faut lui faire confiance qu'il nous montre la bonne personne au bon moment. Comme j'ai vu ça dans l'Église aussi. Il y a des gens qui ont attendu des années avant que Dieu leur amène la bonne personne. Et dans d'autres cas, ça a été non, c'était mieux de ne pas se marier. Dieu le sait. Il a toujours un grand but précis en tête pour chacun de nous. Et parfois, la bénédiction, comme je mentionne, c'est de ne pas l'être. Ou la bénédiction, c'est de ne pas être riche. Ou de ne pas avoir d'abondance financière. Ou ce n'est pas d'avoir plus de santé. Dieu sait. Dans certains cas, oui, mais dans certains cas, non. Il y a des nuances, là. Tout le monde n'est pas pareil. Parfois, c'est plutôt d'avoir une épreuve. On ne le demande pas, là. Mais si on le demande, on va en avoir. Mais si on ne le demande pas, on va en avoir quand même. Alors, je vous annonce qu'on aura encore des épreuves. Mais heureusement, parce que ces épreuves-là nous aident à grandir spirituellement et à comprendre davantage de choses. C'est formidable. Les épreuves nous aident à développer la foi parce que Dieu sait ce que nous avons besoin de mieux. Maintenant, je vais vous donner, en continuant le sermon, quelques clés pour développer une foi vivante envers Dieu. Je vais vous donner quelques clés toutes simples. Première clé, développer une confiance totale envers Dieu. Et ça, c'est une décision, là. C'est un choix. Est-ce que je fais confiance à Dieu ou pas? Et plus on le fait, plus on devient capable de le faire. Parce qu'on comprend en cours de route. Dieu donne son Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent, à ceux qui se tournent vers lui. Alors, développer une confiance dans son jugement à partir du fait de choisir de lui faire confiance. Ça, c'est juste le contraire de ce que Satan a fait. Je vous donne l'exemple dans l'autre sens. Satan avait la gloire. Il n'y avait rien d'autre à demander, là. Il y avait la gloire, il y avait l'autorité, il y avait une puissance énorme. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lui a cessé de faire confiance à Dieu. Il a cessé de faire confiance au jugement de Dieu. Il a commencé à se dire, moi, je peux faire mieux que lui. Voyez-vous? Il est parti complètement dans l'autre sens. C'est pour ça que nous, on doit commencer à partir de notre impuissance, puis de notre nullité. On doit commencer à choisir de lui faire confiance et de faire des expériences avec lui pour qu'on le voie nous aider, nous répondre, nous guider, nous donner de comprendre des choses dans la Bible et de l'apprécier. Parce que quand on comprend des petites choses dans la Bible, c'est parce qu'il nous le donne de le comprendre. Et ainsi de suite, dans tout ce qu'on a à faire. Mais Satan avait tout ça et il pensait qu'il pouvait faire mieux que Dieu. Et il voulait faire les choses à sa façon. lui s'est fié à son jugement et non pas au jugement de Dieu. Mais il n'avait pas eu d'épreuve. Il était créé glorieux, avec plein de pouvoir et tout ça, et ça l'a prouvé une chose, et ça nous aide à le voir, c'est que lorsqu'on n'a pas d'épreuve, on a des risques de manquer notre coup, OK? De chercher ailleurs qu'aux bons endroits. Alors que quand on réalise qu'on est entièrement dépendant de Dieu, on apprend à compter entièrement sur le Dieu Tout-Puissant. C'est ça la grande différence. Maintenant, je vais plus loin, mais je pose une question. Si on doute de Dieu, comment est-ce que Dieu, lui, pourrait nous faire confiance? Si je doute même de l'existence de Dieu, et si je doute du fait qu'il peut répondre, parce qu'il est le rémunérateur de toutes choses, comme on a vu tantôt, si j'en doute, pensez-vous qu'il va me répondre? T'es pas certain? Moi, je vais te donner ce que tu penses recevoir? Non. Il va me laisser mijoter dans ma nullité ou dans mon problème. Hébreux 11, verset 1, regardez ce qui est marqué. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On les a pas eues, les choses encore, mais on l'espère. Écoutez, vous espérez le retour de Christ, comme moi. L'avez-vous vu? Non. Moi non plus? Non. Mais pourtant, je suis certain, il y a un jour, pas loin, devant nous, où le Christ va descendre, établir son gouvernement. J'en suis convaincu, pas par ma force, parce que Dieu me le donne, et que Dieu peut vous le donner, vous l'a donné peut-être, jusqu'à maintenant. Ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, hein? Que la lumière soit. Quand il a dit les choses, c'est arrivé. C'est la création de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est vrai. L'univers physique n'a pas été fait de choses physiques, matérielles. Il a été fait sur la parole de Dieu, par la puissance de Dieu. Et on le croit par la puissance de Dieu qui nous donne de le croire. Et tantôt, je vais vous revenir là-dessus. Ce qu'on a besoin, c'est pas notre foi à nous. C'est la foi du Christ. Ça, c'est toute la différence. On commence notre cheminement par notre foi. C'est-à-dire que quand Dieu m'appelle, je crois Dieu, je crois en Dieu. Disons ça comme ça, je crois en Dieu. Ça, c'est ma démarche. J'accepte de croire en Dieu. Ça, c'est ma foi. Mais ça va pas loin. J'ai besoin après ça d'avoir la foi du Christ, que sa foi me soit donnée, pour que je voie les choses comme lui et que j'ai sa force pour faire les choses que j'ai à faire. C'est là la différence. Je vais revenir un petit peu tantôt là-dessus. Lui faire confiance, même dans les épreuves d'entraînement qu'on doit subir. Reconnaître qu'on ne peut rien de nous-mêmes. Ça, c'est un point de départ important aussi, que de moi-même, je ne peux rien. Donc, chaque fois que je réussis quelque chose, lui dire merci. Parfois, on comprend pas ce qui nous arrive. Ça vous est arrivé sûrement. Moi, ça m'est arrivé souvent. On comprend pas telle chose qui nous arrive. J'en parlais justement avec quelqu'un tantôt avant l'assemblée qui comprenait pas pourquoi telle chose lui était arrivée. Et là, il voit maintenant pourquoi c'est arrivé. Dieu accomplissait quelque chose à travers ça. Et même, il y avait un bien qui s'en venait par rapport à cet état de choses qui semblait négatif au point de départ. Parfois, on ne comprend pas ce qui nous arrive, mais alors, il faut lui faire confiance et faire quoi? Pour suivre notre route. Continuer d'aller de l'avant pour obéir à Dieu. Proverbe 3, un superbe passage dans lequel j'aime à revenir souvent. Proverbe chapitre 3, vous allez comprendre pourquoi. Vous le connaissez sûrement. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Donc, mets ta confiance en Dieu. Choisis de mettre ta confiance en Dieu. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse quand on a des décisions à prendre, des choix difficiles à faire. Tout mettre entre les mains de Dieu. Reconnais-le dans toutes tes voies. Donc, demande-lui de faire ta volonté dans tout ce que tu as à faire. Il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers selon sa volonté, à son rythme et à sa façon. Psaume 9, qui va dans le même sens. Psaume chapitre 9. Et on va lire les versets 10 et 11. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Et quand on est malade, ou quand on subit de grandes pertes, ou quand il y a des grands bouleversements qui arrivent dans notre vie, et qu'on se tourne vers Dieu, il devient, et là on le sent, et on le vit, il devient notre refuge. on est à la bonne place d'aller se blottir sous ses ailes. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient à toi. Connaître le nom de Dieu, c'est pas juste savoir comment il s'appelle. Connaître le nom de Dieu, c'est travailler à faire sa volonté. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Wow! Ça, c'est encourageant. Tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Et sous-entendu, bien sûr, ceux qui te cherchent avec confiance et qui te demandent de les aider à te découvrir davantage et à faire ta volonté davantage. Une autre clé que je vous donne. Attention de ne pas être amer envers Dieu. Là, je vais peut-être vous surprendre. Vous savez, on peut être amer envers Dieu sans s'en rendre compte même. Des fois, on peut s'en rendre compte, mais des fois, ne pas s'en rendre compte. On peut être amer juste un petit peu. Quand les choses tournent pas rond, quand les choses ne vont pas comme on souhaiterait, que Dieu ne semble pas répondre ou qu'on ne comprend pas la situation dans laquelle on se trouve, ça se peut qu'on ait un petit peu d'amertume envers Dieu. Parce qu'il faut accepter de vivre ce qu'on a à vivre. Et si c'est quelque chose qu'on a attiré sur nous par nos fautes, ben, faut le comprendre et changer ce qu'on a changé. Et Dieu va nous aider, il va nous le montrer. Et on ne répétera pas le même scénario. Mais il faut accepter de vivre les choses qu'on a à vivre. Allez dans Job chapitre 9. Vous êtes dans le psaume, c'est pas loin avant. Quelques pages auparavant. Job chapitre 9. On va voir que dans le cas de Job, ça va peut-être vous surprendre, mais quand on regarde l'ensemble des textes, on voit que Job a été amer envers Dieu. Job a été amer envers Dieu. Ça peut-être ça va vous surprendre. Il est devenu amer envers Dieu quand les choses ont été très difficiles et qu'il ne les comprenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi ça lui arrivait à lui. Il essayait de plaire à Dieu. J'essaye de te plaire, puis il m'arrive tout ça, je comprends pas. Et il y avait une petite odeur d'amertume dans son approche. Job chapitre 9, regardez le verset 1 à 4. « Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? » Donc, Job, il dit ici, un être humain ne peut pas être juste par rapport à Dieu. Dieu est parfait, l'homme n'est pas parfait. Verset 3, s'il voulait contester avec lui, avec Dieu, sur mille choses, il ne pourrait répondre à une seule. L'être humain ne pourrait pas expliquer. À lui, à Dieu, la sagesse et la toute-puissance, qui lui résisterait impunément? Verset 15, allons plus loin. Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne puis qu'implorer mon juge. Dieu est mon juge, c'est le Dieu suprême. Verset 16, « Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirais pas qu'il ait écouté ma voix. » Mais oui, si ça m'arrive qu'il y ait une réponse à mes questions alors que je suis dans la position où je suis, j'aurais de la difficulté même à croire que ça vient de lui. Regardez comment Job est allé loin dans ses doutes et dans ses inquiétudes à ce moment-là. Verset 17, « Lui qui m'assaille comme par une tempête. » Autrement dit, tout ce qui m'arrive, Dieu le permet. Et dans ça, Dieu m'assaille comme une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume, recourir à la force. Il dit, il est tout puissant, je peux pas être plus fort que lui, puis de renverser, puis de l'obliger à tout régler. Il dit, je peux pas rien faire, il est tout puissant. À la justice, je peux pas prétendre que je suis juste, je peux pas aller devant lui puis dire je suis juste. Qui me fera comparaître? Suis-je juste? Ma bouche me condamnera. Si je prétends être juste, je peux pas le dire. Suis-je innocent? Il me déclarera coupable. J'ai beau prétendre être innocent, il va dire, t'es coupable, t'es pas parfait, t'es pas... Mais où? Alors ça, c'est la position où il se trouvait, les émotions qu'il vivait. Mais allez plus loin, Job chapitre 10, on va lire les versets 1 à 3. Il en arrive à dire ceci, « Mon âme est dégoûtée de la vie. J'en peux plus. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon cœur. » Job était devenu amer envers Dieu. Mais Dieu est un Dieu de miséricorde. Il comprend les réactions humaines et tout ça, et il nous amène à travers tout ça, quand on est disposé à comprendre et à faire les choses comme il faut, il nous amène à comprendre et à passer à travers. Verset 2, « Je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? Il y a des gens méchants autour de moi qui sont bénis abondamment alors que moi je souffre. As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme? Et ainsi de suite. Alors, il place Dieu dans la perspective qu'il est le Tout-Puissant et que lui, Job, souffre beaucoup. Alors, quand on lit tout le livre, on va vers la fin et on voit comment le livre se termine, Job 42, parce que vers la fin, Job pose encore une série de questions à Dieu, puis Dieu ne lui répond pas à ces questions. Mais Dieu lui explique à quel point il est grand, à quel point c'est lui qui a tout fait, qu'il soutient toutes choses et que rien ne peut s'opposer à ce qu'il fait. Et c'est ça la réponse. Il ne répond pas à ses questions précises, mais il lui donne la grande perspective. Regardez ici, Job 42, versets 1 et 2. « Je reconnais que tu peux tout. » Job finit par dire ça. « Et que rien ne s'oppose à tes idées. » Allez, le verset 5 maintenant. « Mon oreille avait entendu parler de toi. » C'est Job qui dit, « J'avais entendu parler de toi, mais je te connaissais pas vraiment. » Comme là, je commence à te connaître avec l'expérience que tu me donnes de vivre. Expérience pénible, difficile, qui m'a même amené, je te demande pardon, d'être amer envers toi. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Là, je sais qui tu es davantage. » Pas complètement, mais davantage. « C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Là, Job réalise que ses perceptions n'avaient pas de sens. C'était insensé. À côté de la grande perspective de Dieu, Dieu vient lui montrer qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il va amener toutes choses à son but. Alors, voyez-vous, quand il y a quelque chose de difficile, quand il y a quelque chose de difficile à comprendre, il faut davantage chercher Dieu. Et c'est ce que Dieu a amené Job à faire, en ne répondant pas à ses questions, qui étaient d'un autre niveau, mais en lui montrant sa majesté, puis en lui disant, j'ai un plan plus grand que tout ça, et Job, tu as une place dans ce plan-là. Comme c'est la même chose pour chacun d'entre vous ici, et pour chaque membre de l'Église à travers le monde. Il faut chercher Dieu davantage quand on se retrouve dans une situation où on ne comprend pas ce qui nous arrive et où on sent qu'on n'a pas la force de passer à travers. Toute la force vient de là-bas. Et la bonne compréhension ou le soutien vient de Dieu. Et dans ce temps-là, il faut faire comme le jeune qui met ses sous de côté pour avoir la chose qu'il veut acheter plus tard. Il faut être patient avec Dieu. Il faut être patient avec Dieu et attendre. Attendre sans avoir même toutes les réponses, tout en continuant de lui faire confiance. Une autre clé maintenant pour garder la foi vivante, et si on la garde vivante, si on développe cette vie de la foi en nous, par les choses que je vous dis, on s'assure de se rendre à l'immortalité. L'autre clé pour garder la foi vivante, je viens d'y toucher indirectement, c'est de garder la bonne perspective, d'avoir en tête la perspective que Dieu nous donne sur son plan, qui s'accomplit dans le temps. Écoutez, votre vie et ma vie, c'est quoi? C'est quoi par rapport à l'éternité? C'est une goutte par rapport à la vie qui n'a pas de fin. Ma petite vie actuelle, même si elle durait 100 ans, elle est quoi par rapport à l'éternité? C'est quoi une goutte d'eau, maintenant physique, par rapport à toute l'eau qu'il y a dans les océans du monde? C'est rien. Alors, ma vie physique actuelle, temporaire, elle est une goutte d'eau par rapport à l'éternité glorieuse qui nous attend si nous sommes fidèles à Dieu. Et actuellement, nous sommes au moment de l'entraînement. Et cet entraînement-là, il est passager, il est temporaire. Il aura une fin. Et quand ce sera terminé, nous serons entrés dans les choses permanentes. Et il n'y aura plus rien de pareil. Psaume 103. Psaume chapitre 103, s'il vous plaît. Il y a une dimension fantastique à ce qui vient et qu'on a besoin d'entrevoir pour nous encourager. Psaume 103, versets 15 à 17. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Et ça ne dure pas longtemps, l'herbe, hein? Ça dure une saison, quand il fait beau, quand il y a assez de pluie, quand le soleil est bon. Si le soleil est trop fort, s'il n'y a pas assez de pluie, l'herbe ne dure pas longtemps. Quand il y a des feux de forêt, l'herbe ne dure pas longtemps et ça passe très, très vite. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Nous, ça nous semble être long. Quand on a 12 ans, 15 ans, 20 ans, il nous semble qu'on va vivre éternellement. Ça va être très, très, très long. Mais on s'en compte à mesure que l'horloge fait son chemin, que les années raccourcissent et que le temps passe vite. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme l'herbe des champs, Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. C'est fantastique. Et même, je compare ça à des endroits qu'on a connus comme il faut physiquement. Là, ça va vous rappeler des choses. Là où vous avez grandi, par exemple, vous avez connu une rue avec une maison en particulier. À un moment donné, la maison a été détruite. Vous retournez un an ou deux après, vous dites, qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là? Vous vous rappelez même plus la bâtisse qu'il y avait là, si vous vous rappelez qu'il y avait une bâtisse. Parce que le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. C'est parti, c'est plus là, et c'est parti de nos souvenirs. Ça va avec ça. Mais la bonté de l'Éternel, voilà ce qui dure. Dure à jamais. Pour qui? Pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui développent de lui faire confiance. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. C'est un Dieu de famille. Voilà la perspective qu'on doit développer, qu'on doit regarder, puis apprécier, puis garder dans les moments de difficulté. Et même quand ça va bien. Parce qu'il ne faut pas oublier de remercier Dieu quand ça va bien. Parce qu'on est porté, en tant qu'être humain, quand ça va trop bien, à ne pas avoir besoin de remercier parce que tout va bien. On a moins besoin de Dieu, tout est là. Si on apprend à remercier Dieu quand ça va bien, lui, il voit. Il va vous bénir encore davantage. Parce qu'il voit que votre cœur est vraiment avec lui dans toutes circonstances. Mais il faut garder la bonne perspective, quelles que soient les situations que nous vivons maintenant. Jacques 4. On revient un peu avec le même principe ici, Jacques, chapitre 4. Même principe qu'on a vu dans les psaumes et les proverbes. Jacques, chapitre 4, et le verset 14 et 15. Vous, qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Et que c'est vrai. Vous, qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? La goutte que je vous parlais tantôt, là. Votre vie, c'est une des gouttes, là, dans tout l'océan. Vous êtes une vapeur, encore pire. Moi, au moins, je vous disais que c'était une goutte. C'était plus tangible. Une vapeur, c'est une goutte qui est en train de s'en aller. Mauvaise nouvelle. Alors, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Ça, c'est la bonne perspective qu'on doit garder. Parce que ça nous garde sur la bonne perspective avec Dieu, qu'on a besoin de lui en toutes circonstances. Et que si on se met dans ses mains pour faire sa volonté, il va nous amener à terme. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alors, nous sommes actuellement au cours de quelques brèves années de formation avant de recevoir notre diplôme de vie éternelle dans la famille de Dieu. Et tout se développe dans le temps. Un enfant, c'est pareil. Après qu'il est venu au monde, quand il commence à vouloir bouger, il se traîne à terre. Il n'est pas capable de marcher. Il se traîne à terre. Et après ça, il commence à marcher un peu. Et après, il se tient debout. Il peut même courir. Alors, tout se fait dans le temps. Il y a des leçons pour nous là-dedans. Notre conversion se fait dans le temps aussi. La capacité de développer la foi se fait dans le temps. Mais il faut le faire en cours de route pour être capable de développer comme on doit se développer. Dieu est un parent parfait qui vise votre bien spirituel et non pas seulement votre bien-être physique temporaire. Si vous avez besoin d'avoir des bénédictions physiques, il va vous les donner. En espérant, et c'est ce que j'espère, que quand il nous les donne, qu'on soit reconnaissant et qu'on les utilise pour faire mieux et faire plus et servir les autres. Donc, il faut plus qu'endurer. Des fois, on a une épreuve, on dit, on va tenir le coup, on va endurer. Il faut faire plus qu'endurer. Mais apprendre de ce que nous vivons. Apprendre de ce que nous vivons. Parce que Dieu nous appelle dans un but précis. On va devoir administrer des villes, on va devoir enseigner des gens, on va devoir leur montrer la voie à suivre. Alors, on ne fait pas seulement qu'endurer les épreuves qu'on vit, mais on demande à Dieu de nous aider à en tirer profit pour être prêt à comprendre les autres et à régner dans le monde à venir. En ayant cette bonne perspective qu'on transmettra aux êtres humains qui auront survécu à la grande détresse. Une autre clé maintenant pour développer la foi, faire preuve de patience envers Dieu. J'avais aussi touché un petit peu ce point-là il y a quelques minutes. Faire preuve de patience envers Dieu. Jacques 1, vous êtes dans Jacques, allez à Jacques 1, le verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors voyez-vous pourquoi je vous parle des épreuves dans l'optique avec laquelle j'en parle aujourd'hui. Il dit, regardez avec une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. On les apprécie en sachant que ça va nous amener plus loin. Pas parce qu'on désire en avoir d'autres, pas parce qu'on prend plaisir à des épreuves, mais on sait le positif que Dieu a en tête avec ça. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Et Dieu va nous rendre parfait le jour du retour de Christ. Mais il faut prendre le temps que ça prend pour passer à travers les épreuves. Certaines épreuves ne durent pas longtemps, d'autres un peu plus, d'autres très longtemps. Il faut de la patience pour passer à travers. Vous savez, il faut donner au temps le temps dont il a besoin. J'aime cette phrase-là, ça m'avait été déjà donné, ça. Il faut donner au temps le temps qu'il lui faut pour accomplir ce qui doit être accompli. Donner le temps au temps. Ça, c'est la vraie expression que je voulais vous donner. Il faut donner le temps au temps. Donc, être patient, confiance totale que Dieu existe et qu'il répond à ceux qui veulent faire sa volonté. Mais en partant, la patience est un contraire à la nature humaine. Je vous apprends rien. On est tous dans le même cas. La patience est contraire à la nature humaine et la plupart d'entre nous, pour ne pas dire tous, on a encore de l'amélioration à apporter de ce côté-là. Et rapidement. Pourquoi? On a tous à développer encore de la patience. Et c'est bien. Parce que c'est un trait de nature divine, vous savez. Allez dans Romains chapitre 15. On en parle ici comme d'un trait de la nature divine qu'on doit développer quand on est appelé. On doit devenir comme le Christ. On doit revêtir le Christ, ses émotions, sa façon de penser, sa façon de faire. Alors, Romains chapitre 15, on va lire à partir du verset 4. Or, tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On regarde les textes et on en est instruit. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et quand on est patient, notre espérance devient valable, devient puissante. Et regardez le verset 5 surtout. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. C'est-à-dire les mêmes sentiments du Christ les uns envers les autres. Mais je reviens au début du verset 5 parce que dans la Bible Louis II, c'est marqué que le Dieu de la persévérance et de la consolation. Et dans la King James en anglais, c'est le Dieu de la patience. Le Dieu de la patience. Alors moi, j'ai mis un autre petit mot dessus le mot persévérance. Le vrai sens original du mot, c'est que le Dieu de la patience. Et c'est pour ça qu'au verset 4, il dit « afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures ». Et c'est pour ça qu'après, il dit que le Dieu de la patience et de la consolation. Et vous, ça va ensemble. Parce que Dieu est un Dieu patient. Et on n'a pas à aller loin pour voir. Vous regardez depuis le début de la création comment Dieu a été patient avec les êtres humains. Il aurait pu tous les éliminer au complet puis ne plus vouloir travailler avec eux. Il en a éliminé des groupes, comme à Sodome et Gomorre, comme au déluge, mais il va les ramener en vie pour leur donner leur pleine chance à ce moment-là. Mais Dieu est un Dieu extrêmement patient. Il l'a été avec Israël. Israël, qu'il avait choisi comme petit peuple pour vivre selon ses voies et être un exemple, l'ont rejeté à combien d'occasions? Et quand ils se repentaient puis demandaient l'aide de Dieu, Dieu les aidait encore jusqu'au jour où ils se détournaient encore de lui. Il était extrêmement patient. Il a été extrêmement patient envers vous et envers moi. Et il l'est encore, heureusement. Heureusement qu'il l'est encore parce qu'on n'est pas encore parfait. Mais Dieu est très patient par rapport au but qu'il veut atteindre, amener sa famille à vivre sur le plan de l'immortalité. Vous savez une chose, quand on va arriver au début du millénium, après le retour de Christ, nous autres aussi, il faudra être patient. On est en train de l'apprendre. Mais il faudra être patient envers les humains qui vont être là, parce qu'ils ne seront pas parfaits du jour au lendemain. Et puis j'en parlerai peut-être à la fête des tabernacles, mais il y aura des grosses rébellions dès le début du millénium. Qui vont se produire. La Bible nous montre ça. Je suis en train de préparer quelque chose pour la fête à ce sujet-là. Donc, il faudrait être patient aussi avec ces gens-là qui n'auront pas encore tout compris, puis qui vont arriver, même s'il arrive la grande détresse et tout ça, ils vont arriver avec leur nature humaine, puis avec toute la méchanceté qu'ils avaient développée, puis toute la méchanceté qu'ils auront vécue dans les camps de concentration, toute la violence qu'ils auront vécue, et ainsi de suite. Alors, faudra nous être patients avec eux aussi. Les maîtriser, les orienter, les comprendre, leur donner le temps donner le temps au temps pour eux aussi et les amener à bon port, comme Dieu fait avec nous, comme il a fait avec Israël. Il y a un bel exemple de ça que je me rappelle, qui ça m'avait vraiment frappé. Une vieille dame aux États-Unis, elle avait 80 quelques années, elle avait vécu une vie pleine, et vers la fin de sa vie, elle a perdu la vue. Elle a perdu la vue. Alors, vous imaginez, elle avait déjà vécu, elle a vu sa vie, et à la fin de sa vie, elle perd la vision. Et c'est un bel exemple de patience. Elle a fait ce qu'on doit faire. Elle a demandé l'onction à un ministre de Dieu. 3 fois. Comme Paul a fait. La réponse a été la même que Paul. Ça a été non. Alors, elle n'a pas été guérie, cette vieille dame-là. Et vous savez, la déclaration qu'elle a faite, ce qu'elle nous a dit, c'est que si c'est pas maintenant que Dieu me guérit, il va me guérir dans le monde à venir. C'est vrai. Parce qu'à ce moment-là, on sera rendu parfait avec un corps spirituel. On n'aura même plus besoin des yeux physiques. Alors, elle dit, si Dieu me guérit pas maintenant, il sait ce qu'il, autrement dit, ça sous-entendait ça. Dieu sait ce qu'il fait. S'il me l'accorde pas maintenant, c'est mieux pour moi, mais je sais qu'il va le faire de toute façon. Parce que quand il va me transformer en être spirituel, je n'aurai plus de problème avec ça. Alors, Hébreux 6 maintenant. Allons dans Hébreux chapitre 6, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 6, et on va lire les versets 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle de conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Donc, c'est positif dans ce sens-là. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par quelqu'un de plus grand que lui, il jura par lui-même, il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Alors, il nous faut s'approcher de Dieu, prouver que Dieu existe en développant un rapport avec lui direct, développer la confiance, obéir, quelles que soient nos circonstances et quel que soit le prix à payer. Je vais plus loin parce que j'ai vu ça plusieurs fois aussi. Par exemple, payer la dîme quand on n'a pas le moyen de la payer. Payer la dîme à Dieu lorsqu'on a un revenu, un salaire, même quand on n'a pas le moyen de la payer. Et moi, je l'ai vécu moi-même aussi. Il y a des périodes où on n'avait pas le moyen de payer la dîme, on l'a payé. Dieu a pris soin de nous, il s'est arrangé. C'est des circonstances où on doit vraiment mettre en pratique la confiance envers Dieu. Aller à toute la fête des tabernacles, même si on n'a pas le moyen d'y aller. Si on n'a pas le moyen d'y aller, on peut l'observer chez nous d'une certaine façon, mais il faut l'observer et plaire à Dieu. Et si on doit perdre un travail pour observer le sabbat, par exemple, ou aller à la fête des tabernacles, on perd le travail. Mais Dieu bénit en conséquence. Mais on a prouvé à Dieu qu'on voulait lui appartenir, qu'il passe en premier. S'en remettre à lui. Ça, c'est la foi avec les œuvres. C'est pas juste de croire que Dieu existe, mais d'agir en conséquence. Je verse mes dîmes, même si je n'ai pas le moyen de le faire. Dieu a dit qu'il allait prendre soin de moi. Et il a pris soin de moi. Et il a pris soin de tous ceux qui ont payé la dîme parce qu'ils voyaient l'obligation de le faire et qu'ils l'ont fait honnêtement. Dieu a respecté sa part du contrat. Maintenant, un autre point, une autre clé pour développer la foi vivante, c'est d'avoir contentement. Quand les choses ne fonctionnent pas comme on voudrait, soit par manque de santé, manque de finances, difficultés dans les relations personnelles et ainsi de suite, faire confiance à Dieu et continuer d'avancer, comme je mentionnais tantôt. Et Hébreux 13, on est dans Hébreux, allez dans Hébreux chapitre 13, s'il vous plaît. Et nous allons lire le verset 5. Hébreux 13. Verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, c'est-à-dire chercher l'argent pour l'argent. On peut vouloir avoir de l'argent, c'est normal. Il y a des gens dans l'Église qui sont en moyen. Abraham était très riche. C'est le problème avec l'argent, c'est quand on met l'argent avant Dieu. Quand ça devient notre but dans la vie. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors, ça, c'est la promesse que Dieu fait. Mettez les bonnes priorités et Dieu va s'occuper du reste. Et nous allons hériter le royaume. Nous allons hériter la vie éternelle et l'administration de la planète pour commencer notre vie éternelle. Il dit, contentez-vous de ce que vous avez pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler à améliorer notre vie, mais il ne faut pas que le fait de vouloir avoir des choses devienne une priorité dans notre vie. Paul n'a pas eu une vie de château. Bon, vous le savez, il a vécu pauvrement, il a eu plusieurs épreuves et tout ça, mais Paul a dit « Je suis à l'entraînement et je suis content de où je suis et de ce que je vis. » Vous pouvez aller voir dans Philippiens 4, versets 11 et 12, et même au verset 13, où il est dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4, versets 11 et 12, et verset 13 surtout, qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et dans le passage, il dit « J'ai appris à être dans l'abondance, j'ai appris à être dans la pauvreté, j'ai appris à avoir faim, j'ai appris à manger bien, et ainsi de suite. » Donc, j'ai vécu toutes sortes de circonstances, mais dans toutes les circonstances, j'ai mis ma confiance en Dieu et je l'ai remercié de toutes choses. Ça ne veut pas dire d'être léthargique, comme je vous dis, mais ne pas être amer, voir la grande perspective, nous confier en Dieu. Il y a des situations qui sont difficiles. Je me rappelle, quand on est étudiant, pour la plupart des cas, on manque de sommeil parce qu'il faut travailler beaucoup pour y arriver. Souvent, on manque d'argent et dans certains cas, on manque de nourriture. Il n'y en a pas beaucoup. Je me rappelle, M. Weston parlait quand il était étudiant. Il a forcé beaucoup sur le gruau. Il a mangé beaucoup, beaucoup de gruau, M. Weston, quand il était étudiant parce qu'il n'avait pas le moyen. Alors, ça coûtait moins cher et ça pouvait remplir et donner de l'énergie. Mais ça vient avec. Mais il y a un grand but là aux études, d'aller chercher une carrière, d'aller chercher un gagne-pain qui nous permette de vivre et de faire vivre notre famille si on décide d'avoir une famille. Alors, voyez-vous, pour le but à atteindre, ça vaut la peine de passer à travers les épreuves qu'on a à vivre. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Marcher avec Dieu, avec contentement. Et quand on fait ça, ça enlève nos frustrations. Ça enlève nos frustrations. Quand on voit le grand but, qu'on dit « Je suis prêt à passer à travers de ça, je vais demander à Dieu de m'aider et il va m'aider à passer à travers. » La seule chose qu'on va amener avec nous dans le royaume, vous savez, c'est quoi, je pense? C'est le caractère que Dieu nous aura donné de développer au cours de la vie présente. Dieu nous entraîne actuellement seulement quelques-uns pour entraîner les autres durant le millénium et après le jugement du grand trône blanc. Et il dit, faites attention de ne pas vous endormir. Restez réveillés. Vous irez voir Éphésiens 5, versets 14 à 17. C'est très clair. Il dit, ne vous endormez pas. Le Christ dit, réveille-toi, toi qui dors. Parce que même lorsque Dieu nous bénit et que les choses vont bien surtout, on est porté à s'endormir. Mais il dit, faites attention. Gardez le rythme. Continuez d'étudier, de jeûner régulièrement, de prier chaque jour. Développez le caractère de vous purifier. Et sachez qu'on n'a pas tout ce qu'on peut désirer dans la vie actuelle. Peut-être qu'on n'aime pas les circonstances où on est. On n'est pas obligé de les aimer. On n'est pas obligé de les aimer. Mais il faut passer à travers pour atteindre le but. La même chose que pour les étudiants que je parlais tantôt. Et le dernier point que je vous donne avant de terminer, c'est pour développer la foi vivante, c'est de ne jamais, jamais, jamais abandonner. Ne jamais, jamais, jamais abandonner. Monsieur Appartient en a parlé tellement souvent parce qu'il savait le risque qu'il y a qu'avec le temps, surtout, avec l'usure du temps, on commence à réduire le rythme et qu'on fasse comme si on abandonnait, mais ça revient au même. Si on fait comme si on est en train d'abandonner. Il faut faire sa volonté et il faut chercher le royaume de tout cœur. C'est pour ça qu'il dit, vous irez voir dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8, le juge là, qui finit par accorder à la femme qui demandait régulièrement son intervention, il finit par lui accorder ce qu'elle demande, justement parce qu'elle insistait. Et à la fin du chapitre, il dit, est-ce que Dieu répondra pas à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et quand on pense à nos frères en Afrique du Sud ou en Haïti ou dans d'autres coins du monde où il y a tant de souffrance et de besoins, est-ce qu'on crie pas à Dieu que ton règne vienne, envoie la libération, non seulement pour les nôtres, mais pour les gens qui vivent dans ces pays, afin que le monde change complètement? Et il dit, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Oui, il va la trouver, la foi véritable, chez ceux qui vont travailler à la développer, chez ceux qui vont crier jour et nuit pour que son règne vienne, qui vont prier chaque jour, qui vont jeûner régulièrement, qui vont demander d'avoir la foi du Christ en eux. Parce que comme j'ai dit tantôt, et je termine là-dessus, notre foi n'a pas de force. Elle sert simplement au début de notre appel, pour choisir d'obéir à Dieu. Après, il faut lui demander la foi du Christ. Et c'est pour ça que M. Meredith aimait tellement Galates 2:20 qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Et c'est la foi du Christ qui nous aide à voir comme on doit voir, à agir comme on doit agir. Et après qu'on a eu la foi du Christ, quand il nous la donne, il faut la rendre vivante. C'est-à-dire, on peut pas juste la garder comme ça, rien faire avec. Il faut la rendre vivante, il faut l'activer, comme les programmes d'ordinateur. Vous pouvez avoir un programme dans votre ordinateur, si vous ne l'activez pas, vous avez le programme, mais il ne produit pas ce qu'il doit produire. Alors, il faut activer cette foi-là pour qu'elle devienne efficace. Comment? Dans les points que je vous ai donnés. Un, en faisant totalement confiance à Dieu. Deux, en rejetant toute amertume envers lui. Trois, en gardant la grande perspective de voir notre courte vie d'entraînement physique par rapport à l'éternité. Après ça, d'être patient envers Dieu. Après ça, d'apprécier, c'est-à-dire le contentement. Et finalement, ne jamais, jamais, jamais abandonner. Voilà comment développer la foi reçue de Dieu qu'on doit lui demander et avec laquelle on doit travailler pour qu'elle soit vivante et pour qu'elle nous assure d'entrer dans la vie éternelle.